RMC.
Les gens doivent arrêter d'avoir peur. Le foot, ça se joue sur un terrain. Il faut arrêter d'avoir peur.
C'est pas l'annonce classique quand même. Je suis désolé. Il y a des coups, quelquefois, il n'y a rien de méchant.
Je dois juste dire à notre supporter. Excuse.
Jusqu'à minuit, c'est l'after foot. Gilbert Bribois.
Bonsoir à tous, after-là, jusqu'à minuit, bien sûr, comme tous les soirs, nous sommes en direct avec vous sur RMC à la radio, sur RMC Sport News, à la télé. Évidemment, l'after, l'émission qui dit tout, ce que le monde du football ne pense pas encore. Avec ce soir, Pierre Ducrot, salut Pierre.
Bonsoir messieurs.
Et Jonathan Macardy, Jonathan, bonsoir.
Salut Gilbert, salut Pierre.
Alors, c'est assez rare dans l'after, mais ce soir, on a deux directs. On va suivre la CAN et la Copa América, bien sûr. On va également évoquer le mercato, l'actu du jour. On va parler de Nice parce que on sait désormais c'est fait, la vente va se faire. Hein, il va y avoir info auprès du comité d'entreprise dans quelques heures. Donc, supporters niçois, maintenant que c'est fait, qu'est-ce que vous attendez de votre nouveau propriétaire? Là aussi, on vous attend au 32-16 pour débattre. Oui, du pognon, des joueurs, peut-être. On va voir. Alors, en ce qui concerne les résultats du jour, sachez que les Américaines sont championnes du monde. Enfin, vous le savez, hein, mais nous, on va quand même en débattre quelques instants tout à l'heure. Les États-Unis ont battu les Pays-Bas 2-0. Donc, à Lyon, cet après-midi. Et puis, à la CAN, la surprise du jour, c'est Madagascar. Qui a éliminé la République démocratique du Congo 2-2 après prolongation.
Est-ce que c'est encore une surprise?
Qualif au tir au but de Madagascar.
Quand même, hein.
On va en parler.
Et le sélectionneur de Madagascar sera avec nous tout à l'heure, peu après 23h. Nicolas Dupuis sera là. Madagascar en quart, c'est une première. Évidemment, vu que c'était déjà une première qui se qualifie à la Cannes. Forcément, c'est une soirée de première. Alors, le direct, c'est d'abord le match Algérie-Guinée, Benoît Boutron.
Salut à tous. Effectivement, le favori qui justifie son statut dans cette Coupe d'Afrique des Nations, l'Algérie qui après 63 minutes mène 2-0 assez tranquillement finalement face à la Guinée. Les buteurs Belaïli à la 24e, Mahrez à la 57e. Il y a eu une petite chaleur avec une occasion guinéenne en tout début de seconde période, la parade d'Emboli, mais sinon c'est une belle maîtrise de la part des Fennecs algériens. Et alors il y a un joueur qui réalise une super partie, c'est encore lui qui avait le ballon là à l'instant, c'est Ismaël Bennacer, ancien joueur d'Arsenal qui est évolué à Empoli la saison dernière et qui est pisté par le Milan AC. Énorme match et passe décisive pour le but de Riyad Mahrez. Donc belle perf pour l'instant des Algériens face à une équipe de Guinée qui est un petit peu décevante, qui on le rappelle est privée de son meilleur joueur Naby Keïta.
Et bien sûr, le 32-16 est ouvert, supporters algériens, guinéens, malgaches, congolais. On vous attend ce soir. Vous avez regardé les gars, Algérie, Guinée j'imagine. Oui. Il n'y a pas photo, hein.
Ouais, non, ça joue beaucoup mieux d'un côté, forcément, ça joue au ballon, c'est construit. Le but est pour moi le parfait résumé de
deuxième
de
ça, là, voilà. Le but de Mahrez.
Ouais, une touche jouée rapidement derrière un centre parfait. Et les Guinéens sont dépassés, quoi. Ça va trop vite et c'est trop bon techniquement en face pour les Guinéens.
Tu sais, par rapport au fait que la Guinée soit même en huitième de finale, pour moi c'est une surprise. Quand on sait que la fédération fonctionne sur la tête, qu'il y a beaucoup de problèmes avec la sélection, et si en plus tu leur enlèves leur meilleur joueur, la personne de Naby Keïta,
c'est bien compliqué, ouais.
Il reste pas grand chose. Les joueurs sont de qualité, mais je pense que tu sais, quand une fédération est si mal organisée, je pense qu'au bout d'un moment tu le sens sur ta sélection. Donc là on le voit avec la Guinée, et puis l'Algérie c'est ultra cohérent comme depuis le début du tournoi, et je trouve même qu'ils montent en puissance en termes de maîtrise collective. Il y a des joueurs qui sont vraiment à leur niveau. Je pense à Bennacer, le petit Belaïli aussi qui fait un super match, qui c'est pas juste sur son but, hein, qui vraiment est un vrai dynamiteur sur son côté depuis le début de la compétition, donc c'est totalement justifié.
Et je suis un peu déçu parce que Benoît Boutron tout à l'heure nous a pas relevé ça, mais sur le deuxième but, l'avant-dernière passe, c'est quand même Jamel Belmadi qui l'a fait, quoi.
Et attention avec peut-être le troisième but, hein, il y a une énorme occasion pour.
Oui, parce qu'il redonne vite le ballon pour faire la touche.
Attends, non, il redonne pas vite le ballon. Contrôle derrière la jambe d'appui, ah ouais. Tac, dans la course de celui qui va faire la touche, bim, la touche est faite rapidement et ça y est, tac.
Ah ouais, c'était assez classique, ouais. C'est ça qui fait la différence, hein.
Bah bien sûr, et tu l'as pas souligné, c'est ton boulot Benoît.
Et
même.
Peut-être que Paul Pout n'aurait pas fait le même contrôle.
Non.
Le sélectionneur de la Guinée.
Peut-être. Ouais.
On sait pas.
Alors vous savez que la Guinée en veut au sélectionneur justement là, le Belge Paul Pout. Pourquoi? Parce que en fait, il y avait un protocole de reprise de Naby Keïta.
Ah je croyais que tu allais parler de. Tu sais que lui il voulait faire tous les déplacements en train.
Pardon?
Ouais. Tous les déplacements en train.
En train où? En Égypte là?
Bout en train.
Bravo. Mais c'est Paul Pout.
C'est, ouais, bah, ça passe quand même, ça passe. C'est, si Gilbert l'avait compris tout de suite, ça serait mieux. Mais
bah, alors, non seulement j'ai pas compris, mais en plus elle est nulle.
Pout en train.
Pout en train, c'est un vrai pout en train.
Non, parce que là, franchement, ça passe
ouais,
pas.
Ça ressemblait pas à ça.
Non, est-ce que nul. Pout est branché, est-ce que Pout est in, Poutine. Ah, c'est du même acabit. Hein,
bon, pardon, Gilbert.
C'est encore, encore plus ouais, nul.
C'est encore plus nul. Ouais.
Donc, Naby Keita, vous avez suivi qu'avant la Coupe du, avant la CAN, Liverpool a dit il veut pas jouer. Ça a énervé la Guinée qui s'est vexée. Ils l'ont pris quand même. Lui, il voulait essayer de jouer. Et donc, on se sont mis d'accord avec Liverpool pour une sorte de reprise en douceur. C'est-à-dire, tu joues un peu le premier match, un peu plus le match suivant, encore un peu plus le match d'après. Il a joué un peu le premier match. Deuxième match, il devait jouer une demi-heure. Sauf que Paul Pout, il l'a laissé sur le terrain. Et hop, il s'est blessé.
Eh oui. Mais
il y a les protocoles et il faut les respecter en général. Non, mais cette affaire, c'est pas juste pour faire beau.
Cette affaire, pour l'avoir un peu suivi, elle est totalement dingue. Parce qu'en fait, il n'aurait même pas dû jouer les 30 premières minutes lors du premier match. Il ne s'est pas entraîné avec la Guinée. Il a juste marché, trottiné. Il était incapable de faire des courses. Donc, de le voir aligné. Enfin, de faire des courses, de courir. Donc, de le voir aligné lors du premier match, c'était une anomalie, quoi. Et là, j'espère que ça va pas le compromettre son début de saison avec Liverpool. Ça serait dommage.
C'est pas très grave, hein. Sa blessure, c'est une blessure aux ischio. Oui, enfin, ça l'empêche de jouer, quoi.
Tu comprends si pourquoi parfois des clubs sont un peu réticents à laisser partir des garçons un tout petit peu blessés, aller continuer de se soigner en sélection, etc. Parce que suivant les sélections, t'es pas toujours sûr que ce soit bien fait et que les protocoles soient respectés.
Allez, la finale de la Copa América également ce soir dans l'after et le Brésil a ouvert le score. Aurélien Tirsa face au Pérou.
Et chirurgical clinique, les Brésiliens. 24e minute de jeu, 1-0 pour les Brésiliens. Le but au quart d'heure de jeu par Everton Soares. Le chouchou des supporters brésiliens pendant cette Copa América, il a marqué son 3e but de la compétition. Superbe ouverture sur le côté droit de Daniel Alves pour Gabriel Jesus à la limite du hors-jeu. Le centre au deuxième poteau et le plat du pied magnifique d'Everton qui trompe Pedro Gallese. 1-0 pour le Brésil. C'est évidemment une excellente nouvelle pour les 80 000 spectateurs supporters du Maracana à Rio de Janeiro. Le Brésil mène 1-0 face au Pérou dans cette finale inattendue de la Copa. 25e minute de jeu.
Bon, Jonathan, tu penses que c'est déjà plié ou les Péruviens sont capables de revenir ?
Ça va être compliqué. Je pense que ce Brésil-là est un Brésil qui, à défaut d'être coruscant, est très sérieux. Là, ici, ils ont ouvert le score, ils sont tout en gestion, ils vont bien mieux depuis par rapport au début de match où le Pérou a mis une certaine pression.
C'est malheureusement, pas votre radio qui a bugué.
Non, vous avez bien entendu coruscant. C'est bon, moi je vais chercher sur.
À défaut d'être
Google,
alors, à défaut
Google,
le Brésil à défaut d'être brillant et
pas de maîtrise.
C'est un peu bête parce que le Pérou était bien rentré dans son match et puis t'as cette erreur sur le but. Alors pour le décrire à nos auditeurs, c'est un débordement côté droit de Gabriel Jesus qui met Miguel Troco dans le vent. Ça, à la rigueur, ça peut arriver. Gabriel Jesus, c'est un joueur plein de qualité. Mais l'alignement de la défense péruvienne au marquage sur Everton, notamment Luis Advíncula qui délaisse totalement son côté gauche pour se recentrer. Everton est tout seul, il aligne et voilà, 1-0. C'est dommage parce que le Pérou a bien commencé son match.
Ouais, ils avaient commencé haut, en pressant haut, les Brésiliens. Mais ça a duré 7-8 minutes, hein, honnêtement. Et on imaginait mal le Pérou pouvoir faire ça.
Ça ressemble un peu au premier match, au final, où le Pérou avait super bien commencé lors des 10 premières minutes avant de se prendre une valise. Donc je pense pas que là le Pérou va se prendre une valise parce que c'est une finale, il y a plus d'enjeux et les deux équipes seront plus concentrées. Mais voilà, assez décevant.
Coruscant, brillant. Voilà.
Une performance brillante.
Voilà. Et c'est
comme
aussi
toi,
c'est aussi une planète dans Star Wars.
Ah ouais?
Ouais.
Ça, je savais pas.
Pour être complet.
Ah bon?
Bah ouais, Coruscant. Brillant, éclatant. Et puis aussi, il y a aussi la planète Coruscant, lieu de Star Wars.
Je savais pas.
En tout cas, le 32-16, bien sûr, est ouvert. On va parler de la CAN hein, jusqu'à.
C'est quand même la capitale.
On va suivre ces matchs ici 23h. Oui, pardon?
Non, c'est quand même la capitale de la République, puis de l'Empire. Dans Star Wars. Donc c'est important.
Je crois que je suis un des seuls mecs de ma génération à jamais avoir vu Star Wars. Jamais un seul.
Non mais je lis sur Google, je te rassure, je le sais.
Mais tu les as vus les Star Wars?
Pas tous, non. Ouais. Quand mon fils m'y obligeait, j'y suis allé les voir.
Calvaire.
Et quand tu fais tes courses avec ton chien dans le caddie là, tu lui dis Coruscant aussi? Non, parce qu'on a vu une vidéo sur Twitter.
Ah ouais.
C'est un caddie que j'ai.
Moi j'ai vu le chien. J'ai trouvé sur ton pied.
Ah oui.
Dans une soirée, dans un bar.
Tu sais que je l'amène partout.
Il amène son chien en boîte. Il amène son chien aussi à Carrefour.
Mais non, j'ai trouvé un caddie abandonné hier soir. J'ai trouvé un caddie abandonné aux alentours de la rue Princesse. Ça doit être encore un coup d'Adrien Aigouin ça. Et puis bah au final pour faire les 5 minutes de trajet dedans, je dis bah vas-y, mon petit chien va avoir une calèche. Magnifique.
Superbe.
Voilà.
C'est le seul gars qui ne fait pas marcher son chien, en fait.
Ouais, ton chien te promène. J'avais envie de lui faire un petit tour de calèche. C'est bon, le chariot est abandonné.
C'est vrai qu'elle s'appelle Marinette, toi.
Eh oui,
exact.
On avait fait croire parce que du coup je peux le dire il a un petit tatouage Marinette ici je crois et on avait fait croire lors du match de l'after à Marinette qui s'était tatoué son nom parce qu'il était fan de Marinette Pichon. Bon, elle a pas cru longtemps Marinette.
Elle a cru une minute quand même.
Ah oui.
Bon, à peine.
Oui, signe.
Allez, Algérie Guinée, on y retourne, Benoît Boutron.
71 minutes, pas de Marinette sur le terrain, mais écoute, l'Algérie qui mène 2-0 tranquillement.
C'est sérieux, hein, Benoît.
Oui, non, mais écoute, je le sais, hein, j'ai déjà vu ton tatouage, Joe.
Non, je te parlais du match de l'Algérie.
Ah oui.
N'importe quoi. Je te parlais du match algérien qui était sérieux.
Oui, c'est sérieux, c'est appliqué, mais c'est la patte Belmadi quand même. On en parlait avec Gilbert sur la première heure de jeu. Il a fait des choix forts, il s'y tient, et on voit des joueurs comme Brahimi, même s'il est un peu diminué, qui sont toujours sur le banc, quoi. Il fait confiance aux hommes en forme. Et pour l'instant, ça bouge pas. C'est très solide derrière. C'est peut-être la meilleure défense de cette Coupe d'Afrique.
Ouais, je suis d'accord.
Et l'Algérie qui mène tranquillement 2-0. Donc Belaïli.
Enfin bon, le Maroc n'avait pas encaissé un but jusqu'à ce qu'ils en prennent un par le Bénin.
Ouais, mais le Maroc a fait un match horrible face au Bénin. Enfin, si vous l'avez vu, c'était loupé ce pénalty dans le temps additionnel par. Ziyech qui a fait un match catastrophique, c'était quand même une sacrée.
Le Maroc a souffert de son manque de réalisme chronique avec un avant-centre qui est pas forcément au niveau des autres joueurs. Ouais. Là, l'Algérie c'est complet sur toutes les lignes. Leur avant-centre Bounedjah qui joue au Qatar, c'est bon. Je pense qu'il joue au Qatar parce qu'il s'y retrouve financièrement, mais c'est largement un joueur qui a le niveau
il
de jouer en Europe.
Il a 44 buts en 27 matchs.
Et ouais, mais franchement, c'est un super joueur. Il a largement le niveau de jouer en Europe. Après, financièrement, peut-être il se retrouve plus là-bas. Mais ce qui me surprend dans cette équipe, c'est que quand tu regardes la ligne de la composition d'équipe, t'as 5 joueurs quasiment à vocation offensive et t'as des joueurs comme Mahrez, Feghouli, Benasser, Belaïli, notamment Riyad Mahrez qui est pas le roi des efforts défensifs, qui sont tous super impliqués. Je les trouve sérieux dans leur repli, dans les phases de transition défensive et voilà, je sens qu'il y a un vrai collectif qui est en mission.
Et puis faire jouer Feghouli en relayeur, c'est quand même une belle trouvaille.
Ça avait déjà été fait.
Mais le mettre à côté de Mahrez, ils ont une belle relation technique.
Ça, c'est vrai.
Et ça fait du bien à l'Algérie, ouais, c'est sûr. Tiens, un changement à l'instant. Tiens, Adam Ounas, l'ancien Bordelais, qui va effectuer son entrée en jeu, justement.
Le chouchou du Sampaolo.
Ouais, bah écoute, il va remplacer Belaïli, l'auteur de l'ouverture du score.
Très grand match, Belaïli, ouais. Ouais.
Ounas qui a mis un doublé à la phase de poule.
Contre la Tanzanie, c'était le match, ils étaient déjà qualifiés, les Algériens, ils ont gagné 3-0. Islam Slimani, qui est sur le banc lui aussi, avait marqué, il avait ouvert le score. Et puis ensuite, Ounas.
Par contre, pas d'Andy Delors ce soir.
Non, il avait joué lui aussi Andy. Contre la Tanzanie. Et,
il n'avait pas été mauvais d'ailleurs.
Ouais, c'est vrai, il n'avait pas marqué, mais il s'était procuré des occasions. Et on l'a pas vu pour l'instant, Andy Delors, c'est vrai.
Alors, il a raconté après le match qu'il était sur la plage en famille. Du coup, il a reçu un coup de fil, on lui a dit bon. T'es pris à l'équipe d'Algérie, il faut que t'aies le Qatar, t'as l'avion dans 2 heures. Oh. Et elle dit ah mince, attends, là, faut que je m'organise.
Pour ranger les claquettes là.
Et voilà. Ah. Et voilà. Et il est venu. Il ne
s'y attendait vraiment pas. Parce qu'il a fait les démarches, machin, etc. Quand même.
Oui, là, mais il n'avait pas été pris dans une première liste en fait. Bah, c'était ouais. Suite au joueur algérien qui a montré ses fesses là.
Ah oui, c'est vrai, exact.
Sur Twitch.
Oui, exact.
Bien Twitch.
J'avais oublié l'histoire, c'est vrai.
Voilà. Et c'est suite à ça que.
Écoute, c'est Yves. Vous pouvez finir champion d'Afrique.
Bien sûr, tout à fait.
C'est la classe.
C'est très possible. Brésil-Pérou, Aurélien Tirsin.
La demi-heure de jeu, toujours à but à zéro pour les Brésiliens. Le but d'Everton Soares à la 15e. Et le Brésil qui est absolument sérieux, le plus sérieux du monde, avec toujours aucun but encaissé dans cette compétition. Marquinhos, Thiago Silva, très tranquille. Et Daniel Alves, capitaine, qu'on a vu chanter l'hymne avec tout son cœur, qui est. Quasiment le meneur de jeu de cette équipe. Il touche beaucoup de ballons, il tire les coups de pied arrêtés. Et là, ce sont les Péruviens qui ont une occasion peut-être d'égaliser, d'aller pourquoi pas inquiéter Alisson, le gardien du Brésil, le Pérou, qui est assez intéressant dans le jeu, mais on n'arrive pas à trouver Paulo Guerrero, qui est l'arme offensive numéro 1 des Rouges et Blancs.
Il est trop seul. Il est trop seul parce que normalement dans cette équipe t'as souvent Flores qui se rend, enfin voilà, c'est en 4-2-3-1 sur le papier avec Cueva qui est censé être en 10 et Carrijo et Flores sur les côtés, mais souvent Flores arrive à, voilà, ça se transforme en 4-4-2 avec Flores qui vient en soutien de Guerrero, et là je l'ai pas vu beaucoup le faire. Alors est-ce que c'est parce qu'il reste au milieu de terrain, parce que le milieu de terrain brésilien est très fort, est-ce que c'est parce que tout simplement pour l'instant
il a pas le choix,
c'est
ouais parce qu'ils sont dominés
avec Arthur et Casemiro au milieu de terrain, c'est compliqué pour les Péruviens. D'ailleurs, le coup franc qui n'a rien donné, Luis Advíncula, qui s'est un petit peu précipité sur le côté droit. Ce sera une touche pour la Seleção qui va s'en sortir avec Alexandro sur le côté gauche. Il y a une faute même des Péruviens. Ce sera un coup franc pour les Brésiliens au niveau de leur surface de réparation. 32 minutes de jeu, 1-0 donc pour cette équipe brésilienne qui vise une 9e Copa América dans son histoire.
Bon, tu nous tiens informé dès qu'il se passe quelque chose, évidemment. Le 32-16, numéro magique des RMC, si vous voulez parler de la CAN, de la Copa América. On suit les matchs, hein, évidemment, même s'il n'y a plus tellement de suspense dans ce match de CAN. Avant de parler de la Coupe du Monde féminine dans quelques minutes, bien sûr, et de la victoire des Américaines. Vous entendrez notamment, c'est assez rare dans l'after, Emmanuel Macron, tout à l'heure, qui a parlé foot. D'accord. Et vous allez voir que nous avons un document qui prouve qu'Emmanuel Macron n'est pas un footix.
Ah.
Ce sera tout à l'heure.
Pourquoi qui pensait qu'Emmanuel Macron était un footix?
On ne sait pas, tu sais.
Ouais, voilà.
Et les hommes politiques ne sont pas toujours des grands malades de foot. Et François Hollande, par exemple, il a dit par exemple, un jour qu'il était fan de Rouen et le lendemain de Monaco.
Oui.
Ouais. Footix.
Il est peut-être fan des Rouges, quoi.
Non, fan de Trezeguet.
Ah, la famille Trezeguet, Rouen, voilà. Rouen-Monaco, aussi, c'est le, ouais. Ça peut être un point commun. Tiens, on a Badi qui est supporter de l'Algérie au 32-16. Salut Badi!
Salut Gilbert, comment
Salut,
ça va?
Salut,
toi?
Ah ouais, ça va.
Bon, bah, supporter algérien, supporter serein.
Bah, on peut dire ça, même si on va attendre le sifflet final pour être sûr. Mais voilà, donc on a une équipe qui a tenu bon, qui a évité les pièges.
Ouais, qui surtout se retrouve grand favori de la compète, surtout, oui.
Bah, favori, oui, mais par contre, la Guinée, statistiquement, on est, ils nous battent à chaque fois. Donc là,
c'est une toute petite Guinée ce soir.
Nous, on a une autre confiance, mais voilà, rien n'est gagné avant que ça soit fini, quoi.
C'est pas une très bonne Guinée récemment. C'est une sélection, on l'avait dit, qui est un petit peu en crise. Le football local va pas très très bien. Et là, franchement, le match qu'ils font, ils proposent pas grand chose.
Leur joueur.
Ouais, on l'a dit, Naby Keita.
Tiens, il y a Camano absolument. Qui va rentrer. Là. Bizarre qu'il n'ait pas été titulaire d'ailleurs, Camano. Parce que...
Bon. Non, mais en dehors de ça, au fait, en dehors des stars ou quoi que ce soit, c'est vrai que là, on a deux équipes qui ne sont pas tendues, mais quand même qui sont sur leur garde. Ils savent à quoi ils s'attendent d'un côté comme d'un autre. Mais sur une bonne vingtaine de minutes, on a retrouvé une Algérie qui a pris confiance, qui a déroulé son jeu, qui a marqué son premier but. Il l'a encore fait à l'entame de la deuxième mi-temps. Et donc là, on retrouve encore des petits travers. Mais il faut dire que la pelouse commence à souffrir quand même là, parce qu'il n'y a pas de maintenance. Et c'est en défaveur de ceux qui déroulent le jeu collectif et tout. Donc on reste confiant. On a là encore un petit quart d'heure peut-être avec le temps additionnel. Des bons remplaçants qui vont arriver. Donc... qui vont soulager les autres, et puis on espère que ça va passer avec un jour de repos en avance par rapport au Mali ou la Côte d'Ivoire.
Il n'y a pas de prolongation en plus.
Oui. C'est vrai que ça aurait pu s'organiser différemment cette histoire, parce que concernant les autres huitièmes, à chaque fois les équipes qui s'affrontaient en quart ont joué le même jour, mais là c'est pas le cas. L'Algérie, qui va se qualifier, j'en doute plus là, affrontera le vainqueur de Mali-Côte d'Ivoire qui se joue demain à 18h.
Exactement, voilà. Moi je comprends pas comment ça s'est organisé, mais bon, tant mieux.
Bon, c'est à l'avantage de l'Algérie, bon.
Bon voilà, donc on peut s'attendre déjà à une bonne fin de match avec un bon quart de finale face à des équipes encore très bonnes équipes. Peut-être on verra encore du beau football. Espérons que la pelouse sera favorable pour le bon jeu.
Badi, il y a un joueur qui te bluffe là depuis le début de la CAN dans l'équipe d'Algérie.
C'est qui?
Non mais c'est une question que je te pose.
Mais pardon, tu me dis qu'il bloque.
Qui te bluffe? Tu vois, le gars que t'attendais pas, tu te dis, ouais, effectivement, lui, j'aime bien. Par exemple, je sais pas, Feghouli, Bounedja, on parlait de Jonathan.
C'est Belaïli, le joueur.
Feghouli, on le connaît, mais voilà, il vient de revenir, etc. C'est Benacer, moi, c'est vraiment.
Il a fait une très grosse saison en Italie. Hein. Pardon? Il sort d'une très grosse saison en Italie.
Oui, mais chez Empoli, mais voilà, on s'attendait pas à ce qu'il fasse, il soit à ce niveau-là ici. Parce que franchement, là, sur l'entame de la deuxième mi-temps, on a vu quand il a vraiment pris sa place et il a pris il a retrouvé son jeu, ça a changé quand même un petit peu le jeu de l'équipe. Mais vraiment, parmi tous les stars qui sont là, lui, on va pas dire qu'il est pas connu, mais par contre, il y a que 2 ans qu'il est dans l'équipe nationale. Il a pas vraiment joué avec les autres sélectionneurs. Et là, franchement, il nous fait une superbe canne. Et j'espère pour lui quand même qu'il va. J'ai entendu parler que Milan est en train de voir de son côté. J'espère pour lui qu'il retrouvera encore une équipe qui va, on va dire, le pousser encore dans ses capacités. Mais moi, je suis très impressionné par ce jeune.
Ouais. Et là, il y a un autre jeune qui vient de rentrer, Bonaboutron, là.
Oui, et d'ailleurs, un jeune joueur du Paradou, un club algérien. Oui. Effectivement, Hichem Boudaoui, c'est le petit jeune de cette sélection, 19 ans.
Oui, c'est l'espoir du foot algérien.
Exactement. Ouais. Bah, c'est le même parcours que Rami Ben Sebaini, par exemple. C'est des joueurs qui sont formés en Algérie et qui ensuite vont percer en Europe. Mais voilà, le petit clin d'œil de Jamel Belmadi. On a vu Adam Ounes rentrer. Il y a un peu de gestion sur cette fin de partie. Il y a un débordement, justement, de Youssef Attal. Le centre, deuxième poteau. Et le troisième but, voilà, en direct. Troisième but pour l'Algérie. Et c'est Adam Ounes qui inscrit ce but. Centre à ras de terre de Youssef Attal. Comme il en a l'habitude. Magnifique centre, effectivement, entre le gardien et les défenseurs. Et puis il est là, Adam Ounes, pour pousser le ballon au fond des filets. Ça fait 3 buts pour Ounes sur cette Coupe d'Afrique des Nations. Et ça fait 3-0 pour l'Algérie, qui effectivement va se qualifier pour les quarts. Vous parliez du match contre le Mali ou la Côte d'Ivoire. C'est vrai que ce sera un quart de finale compliqué à gérer. Ensuite, si tu passes le quart, tu affrontes soit le Nigeria, soit l'Afrique du Sud. Donc l'Algérie a quand même un bon coup à jouer dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Badi,
1, 2, 3.
Vive l'Algérie.
Salut Badi, merci en tout cas.
Salut, bonne soirée, salut les gars.
Bonne soirée, 3-0 pour l'Algérie qui donc a fait définitivement la différence dans ce match. Dans quelques instants, on aura Hichem au 32-16 pour conclure ce match. Mais d'abord, un point sur Brésil. Pérou, Aurélien Tirsin.
Et c'est solide le Brésil, c'est solide, même si là il y a un petit contact dans la surface de réparation entre Zambrano et Alexandro. Pas de pénalty selon l'arbitre chilien. Toujours 1-0 pour les Brésiliens. 39 minutes de jeu, le but d'Everton au quart d'heure de jeu. Une seule frappe cadrée dans ce match, c'est pas vraiment du football champagne. Mais bon, c'est solide, c'est sérieux, c'est appliqué du côté des Brésiliens avec Roberto Firmino qui a quand même placé une bonne tête au-dessus des cages de Pedro Gaïssé sur un centre d'Alexandro de la gauche. Mais voilà, on rejoue vers Alisson, le gardien de Liverpool. Marquinhos, Thiago Silva, c'est solide. On ne se fait pas beaucoup bouger. Paulo Guerrero, l'attaquant des Péruviens, est scellé dans la surface de réparation. Il ne touche pas beaucoup de ballons. Et donc ça fait 1-0 pour le Brésil à 5 minutes de la mi-temps.
Ouais.
Hichem est là, salut Hichem.
Ouais, salut tout le monde.
Salut Hichem.
Tu la vois déjà ta deuxième étoile là, ou tu t'enflammes pas trop?
On est bien là, on est bien. On joue bien, on peut plus se cacher là. Là c'est dur de se cacher.
Ah bah non, mais c'était déjà le cas avant le match. Hein.
Ouais, le cas avant le match, c'était la Guinée. Hein. Ils nous ont causé pas mal de problèmes, la Guinée. On a de mauvais résultats contre eux.
Oui, enfin là, t'as vu la Guinée de 2019. Tiens, il y a Andy Delors qui vient de rentrer. Hein. Ça nous avait échappé, mais il vient de rentrer.
Non, mais c'est bien. Là, on sent vraiment quelque chose qui est en train de se passer là.
Bon, moi je te le dis ce soir, alors que le match n'est pas fini, si l'Algérie ne gagne pas cette CAN, tu pourras être déçu.
Oh, ça, c'est d'accord avec toi.
Non, mais c'est vrai, faut dire la vérité. Regarde le plateau, le Maroc sorti.
Pénalty pour le Pérou, messieurs.
Ah, pénalty pour le Pérou, on y va, Aurélien.
40e minute de jeu, 1-0 pour le Brésil. Le Brésil qui n'a toujours pas encaissé un seul but dans cette Copa América. C'est venu de la droite de Flores, il me semble, un 1-2 entre Advíncula et Flores. Et une main dans la surface de réparation pendant un tacle. On n'a pas encore pu voir les ralentis sur les écrans de contrôle. Mais monsieur Tobar, l'arbitre chilien,
il explique à Thiago Silva.
Ouais, c'est Thiago Silva qui a mis la main effectivement en taclant devant Flores. Thiago Silva qui se jette et il y a sa main d'appui. Alors c'est compliqué d'enlever sa main quand on tacle comme ça.
Éternel débat.
Ça, c'est la nouvelle règle débile, quoi.
C'est même impossible.
Dans l'esprit, il n'y a pas du tout pénalty, mais voilà, c'est leur nouvelle règle.
Complètement involontaire, mais Thiago Silva qui dévie complètement la trajectoire du ballon. 41e minute de jeu, 1-0 pour le Brésil depuis le quart d'heure de jeu. Et la réalisation d'Everton Soares. Et là, c'est le capitaine, la star, l'emblématique Paulo Guerrero, 35 ans, l'avant-centre des Incas, de la bicolore de cette équipe péruvienne.
Une
qui va
star
se présenter
au Brésil. Hein.
Effectivement, il joue à l'international Porto Alegre. C'est un joueur qui a pas mal bourlingué, Paulo Guerrero, le capitaine de cette sélection péruvienne. Déjà face à Alisson, alors que monsieur Tobar met la main à l'oreille. Peut-être qu'on va devoir passer par le VAR pour valider ce pénalty. 42e minute de jeu, toujours un but à zéro pour le Brésil. Et donc ce pénalty a tiré normalement pour le Pérou, mais ça va prendre encore quelques secondes pour valider cette décision de monsieur.
Il va avoir le VAR. Il va avoir le VAR.
Voilà. Le petit geste de l'écran.
Donc là, le ballon est déjà sur le rond pour tirer.
C'est très long.
C'est insupportable.
C'est insupportable.
Parce que même, admettons qu'il confirme le penalty, Guerrero là qui est en train de mariner, bon, il est habitué à la pression, c'est un joueur d'expérience, ouais. Mais je pense pas que ce soit, tu vois, qu'ils sont dans les meilleures conditions pour le tirer.
Ce qui serait marrant, c'est qu'il juge qu'il fallait pas siffler penalty là-dessus et qu'il l'annule. Ce serait très,
moi, ça me ferait pas rire, moi.
Ça serait très, très rigolo.
Ça te fait rire, ça.
Ah ouais, ça serait.
Non, mais bon, genre, voilà.
Le comble de la.
Ça pourrait faire dégoupiller les joueurs.
Le comble du grotesque.
Donc l'arbitre qui est devant le petit écran. Au moins, c'est allé très rapidement, il a regardé.
Il l'annule.
Non, arrête un peu.
Pour l'instant, pas de décision.
Il
revient en trottinant vers le point de pénalty. Voilà, le geste. Voilà. Non, il valide le pénalty pour les Péruviens qui peuvent inscrire.
Merci de nous avoir fait perdre 2 minutes.
Un arbitre chilien, c'est ça?
Arbitre chilien, oui, monsieur Roberto Toba.
Non, commence pas.
Arbitre chilien qui arbitre des Péruviens. C'est un peu... Quand on connaît l'antagonisme entre les deux pays. Non, mais c'est vrai, ouais. Bon, il y a pénalité.
Bon, 43e minute de jeu, un but à zéro pour le Brésil qui pourrait encaisser le premier but dans cette compétition. Le Brésil.
Il parle beaucoup aux joueurs. Hein.
Pardon ?
Il parle beaucoup aux joueurs. Hein.
Ah, effectivement, il explique à Thiago Silva par A plus B pourquoi il y a pénalty. Donc c'est Paulo Guerrero.
Guerrero, il a eu le temps de réfléchir 25 fois où il allait mettre le ballon.
Et oui, parce qu'en face c'est Alisson, c'est le gardien de Liverpool. Allez. C'est parti, la course d'élan pour Guerrero. C'est au fond, l'égalisation du Pérou. Incroyable. Un but partout, le premier but encaissé par le Brésil, 44e minute de jeu. Un but partout entre le Brésil et le Pérou, la finale de la Copa América complètement relancée.
Un partout, évidemment, on suit ça de très près. Et Hichem est toujours avec nous. Hichem,
ouais, toujours là,
qu'est-ce qui peut faire que l'Algérie ne gagne pas à la CAN?
Tomber sur une meilleure équipe. Parce que s'ils jouent comme ça
c'est
tous les matchs...
Avant la finale, il n'y a personne.
Je ne sais pas qui c'est qui rencontre en quart, il n'y a pas le Nigeria.
Attends. En quart, ça, c'est le vainqueur de Mali et Côte d'Ivoire. Et après, le vainqueur de Nigeria, Afrique du Sud. Et le Sénégal, pas avant la finale.
La route est vraiment longue. Hein. Il va falloir sortir de gros, gros matchs là, pour les quarts et les demi pour espérer aller en finale.
Mais
je pense que franchement, rien n'est fait. Hein. Honnêtement, rien n'est fait.
Ce qui fait la différence, on l'a dit plusieurs fois depuis le début de la compétition, c'est que par rapport aux équipes maghrébines, c'est que le déficit physique qu'ils pouvaient avoir, là, cette année, lors de cette édition, on constate qu'ils le compensent avec une maîtrise collective qui est supérieure à ce qu'ils pouvaient proposer auparavant. Alors, beaucoup vont se baser sur le match contre le Sénégal.
Puis l'Algérie comme a un vrai banc, hein, et par ailleurs.
Exactement. Beaucoup vont se baser sur le match contre le Sénégal pour, comme étant un match référence pour l'Algérie qui a battu quand même une équipe qui était favorite. On va se rappeler que le Sénégal, il avait beaucoup d'absents, notamment Idrissa Gueye au milieu de terrain. Et tout ce qui va être assez important, ça va être de voir si les Algériens vont avoir la condition physique pour continuer à être aussi collectifs dans leur pressing, dans leur mouvement défensif, pour justement compenser le petit déficit qu'ils ont en impact face aux sélections d'Afrique noire.
Ouais, mais tu vois, regarde là sur l'équipe qui a aligné ce soir, c'est leur troisième match, hein, la plupart.
Oui, c'est vrai, il a pu faire tourner, ça c'est vrai.
Ouais, il a pu faire tourner, donc je pense qu'à mon avis, Belmadi, je pense qu'il vraiment y réfléchit pour aller en
finale.
Oui, il y a une stratégie.
Il a travaillé pour ça, je pense.
Hichem, merci en tout cas, on te souhaite une bonne canne. Et on se rappelle dans l'after. Salut Hichem.
Pas de soucis, merci beaucoup, bonne soirée.
Bonne soirée, un partout entre le Brésil et le Pérou, il reste quelques secondes en première mi-temps. 3-0 pour l'Algérie face à la Guinée. Il reste 30 secondes dans le temps réglementaire. On se retrouve tout de suite sur RMC pour la fin de ces matchs. L'after est là jusqu'à minuit, bien sûr, avec du foot féminin au programme, du mercato, du Nice également. À tout de suite sur RMC.
RMC. L'after foot. Gilbert Bribois.
Jusqu'à minuit, l'after est là, bien sûr, avec Pierre Ducrot, avec Jonathan Macardy ce soir, et on a nos directs. On est à la mi-temps de Brésil-Pérou et un but a été marqué, Aurélien Tirsin.
Le Brésil n'aura pas douté très longtemps après l'égalisation sur pénalty de Guerrero à la 44e minute. Le Brésil reprend les devants 2-1 grâce à Gabriel Jesus à la 48e minute. 3 minutes de temps additionnel au profit des Brésiliens. Super tacle de Roberto Firmino alors que le Pérou partait en contre-attaque. Arthur récupère le ballon, il fait la différence, il décale Gabriel Jesus qui se retrouve tout seul à l'entrée de la surface de réparation. La défense du Pérou d'ailleurs pas au top encore sur cette action, et Gabriel Jesus avec tout le sang-froid de l'avant-centre de Manchester City qui prend à contre-pied Pedro Gallese, et 2-1 pour le Brésil à la mi-temps devant les 80 000 spectateurs du Maracana à Rio.
Bon, alors attendez, on va d'abord faire la fin de match de l'Algérie. L'Algérie officiellement qualifiée, c'est fait, Benoît Boutron.
C'est terminé, effectivement, un match dominé et maîtrisé pour les Algériens qui s'imposent 3-0 au Caire contre la Guinée. Les buteurs Belaïli à la 24e, Mahrez à la 57e, Ounas à la 82e. L'Algérie qui aura marqué 9 buts depuis le début de cette CAN, qui n'en aura encaissé aucun. Et surtout l'Algérie qui affrontera le vainqueur de Mali Côte d'Ivoire. Ce sera jeudi à 18h.
Merci Benoît. Dans quelques instants, on va reparler de l'Algérie. Mais j'ai DJ Las et Nono qui me demandent le scous de Thiago Silva pour la main sur le péno.
Scous. Bah, oui. Là, c'est pas de sa faute, honnêtement.
Mais ça mérite un petit scous quand même. On est dans la fin.
Allez, un petit scous. Mais...
un petit scous.
Allez.
Thiago Silva qui arrive, hein, vous en faites pas. Et puis.
Toto.
Bah, oui, c'est Toto, hein, c'est comme ça.
Scous.
Ah, voilà. Remets-le pour moi.
Scouse.
Ah, et puis Ali qui nous dit c'est le premier but encaissé par Alisson Becker depuis le coup franc de Messi en demi-finale aller de la Ligue des Champions. Il restait sur 9 clean sheets d'affilée.
Oui, la défense brésilienne.
Pas mal, c'est le stade d'Ali là.
Ouais, parce que effectivement, j'avais pas fait attention à ça.
Mais c'est outre c'est la défense centrale, c'est tout le système collectif brésilien défensif qui est très bon. Ils sont bons devant, mais surtout Tite a vraiment réussi à donner beaucoup de sécurité à cette défense là. Ça fait que les autres devant, ils peuvent vraiment s'exprimer. Après, franchement,
vas-y.
Sur le match, les Péruviens, ils peuvent se les mordre, hein, parce que deux buts, deux erreurs individuelles. Les deux buts, à mon sens, sont largement évitables. Alors certes, le Brésil a la maîtrise sur le match, mais à la fois le placement d'Advíncula sur le premier et la glissade de Zambrano sur le second, ça peut avoir des regrets.
Alors tu sais quoi, une vraie erreur pour moi, c'est le premier but, t'as raison. C'est le latéral qui sert derrière son défenseur central sur le centre, alors que le défenseur central a son joueur, il est au marquage et lui doit prendre le joueur au deuxième poteau. Ça, c'est une vraie erreur. La glissade, est-ce que c'est une erreur? Est-ce que c'est la fatalité? Voilà, il a un mauvais appui, il glisse au mauvais moment, quoi. Ça arrive.
Alors, on va parler de la CAN juste après 23h. Là, j'aimerais juste compléter les infos Copa América, parce que ce qu'a fait Messi hier a ému toute l'Amérique du Sud. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un rouge, vous le savez, le deuxième de sa carrière. Mais surtout derrière, il n'est pas allé chercher sa médaille de troisième. Il a boudé, Messi. Et il s'est expliqué pourquoi est-ce qu'il a boudé. Vous savez qu'il y a...
Il avait de quoi être énervé de prendre un rouge là-dessus, quand même.
Oui, d'ailleurs, il dit lui-même, franchement, ça méritait un jaune, pas de quoi.
Voilà. Medel méritait un rouge pour l'ensemble de son œuvre depuis le début du match.
Je suis d'accord avec toi. Qu'on aime ou pas Messi, là-dessus, le pauvre, il essaye justement de ne pas répliquer, de ne pas répondre, alors que l'autre, il le pousse 8 fois. Honnêtement, t'es en face, t'as qu'une envie, c'est de lui en mettre une. Mmh. Il résiste, Messi, et putain, il se prend quand même le rouge. Quoi.
Et donc, Messi dit, voilà, moi, je ne suis pas allé chercher la médaille parce qu'on en a marre de la corruption des arbitres et de tout ce qui gâche le spectacle en Amérique du Sud. Voilà ce qu'il dit. Je ne veux pas faire partie de cette corruption, dit Messi. Il va loin, quand même. Hein. Alors, du coup, la Conmebol, quand même, c'est ému, en disant que c'était totalement inacceptable et infondé de porter de telles accusations. C'est quand même Messi, c'est pas n'importe qui.
Ouais,
pensez Sheila Vert, que j'adore.
Si c'est des choses.
Qui tweet comme un enragé toute la journée en appelant la Conmebol la Corruptbol. mais là c'est Messi.
Lui on est habitué.
Voilà, c'est ça.
Et ce qui est assez fabuleux, c'est que du coup, sa cote de popularité explose en Argentine. On sait que il y a toujours une relation un petit peu compliquée avec les Inchas argentins. Mais là, tu sais, le fameux seul contre tous, on nous en veut, on nous attaque. Il fait toutes les gros titres des journaux. J'ai un peu lu 2-3 commentaires. Les gens sont à fond derrière lui et attendent de pied ferme l'année prochaine.
Je pense que les gens.
Tu veux dire qu'il prépare peut-être directement la prochaine Copa América en Argentine.
Et moi je pense qu'il y a aussi un phénomène, c'est qu'ils sont enfin contents que Messi se rebelle et du caractère, etc. Parce que c'est un joueur
aussi
exceptionnel sur le terrain,
aussi, ouais.
Mais qui parfois avec sa sélection est assez lisse, quoi. Il se passe rien.
Ça fait un petit moment quand même. Il avait quand même décrété une grêve magnifique des joueurs argentins.
Mais déjà avec le Barça, on le voit de plus en plus râler après ses coéquipiers, chose qu'il ne faisait pas avant.
Mais du caractère, moi je.
Il vieillit en ronchon un peu, tu sais.
Non, mais c'est pas mal.
Ouais, c'est bien. Non, mais là, il est en train, sa cote de popularité a explosé depuis hier. Hein.
Oui. Bon, oui, rappelez-moi avec le Barça quand il pourrissait Dembélé, là, qui ratait des trucs énormes.
C'est pas le meilleur moyen d'avoir du caractère, d'enfoncer ton.
Oui, mais d'habitude, il ne le faisait pas, ça.
Non, c'est vrai. C'est vrai.
Bon. En tout cas, donc, c'est la mi-temps. Le Brésil mène demain face au Pérou. Et là, à la fin du match, l'Algérie se qualifie pour les quarts de finale. L'Algérie bat la Guinée 3-0. L'Algérie affrontera donc le vainqueur de Mali-Côte d'Ivoire. Le programme de l'after dans l'heure qui vient. Le sélectionneur de Madagascar sera avec nous, Nicolas Dupuis, dans quelques minutes. Donc, supporter malgache, c'est le moment ou jamais de nous appeler au 32-16. Supporter algérien aussi. Guinéen, si vous n'êtes pas content après votre sélectionneur Paul Foot, après vos joueurs, vous pouvez aussi venir vous exprimer dans l'after. On vous attend nombreux. Et puis, des Congolais aussi. Parce que les Congolais, je crois qu'ils sont moyennement contents de ce qui s'est passé pendant toute cette CAN pour eux. La RDC, qui est censée être théoriquement une des meilleures équipes du continent, mais qui là, c'est quand même largement foiré. On parlera du foot féminin et de la finale États-Unis-Pays-Bas. Et puis, on parlera de Nice. Nice en voie de rachat. Qu'attendez-vous du nouveau propriétaire multimilliardaire ? Alors, je précise quand même qu'il est moins riche que François Pinault. Hein.
Mais plus riche que M. McCourt.
Mais plus riche que
M. peut-être plus prompt à ouvrir le portefeuille.
Que François Pinault.
Oui.
On en reparle dans l'after d'ici minuit.
RMC. L'after foot.